Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais.
C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Delta Sport. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2025. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Mamadou. Salut Mamadou.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va très bien.
Nickel, tu n'étais pas là la semaine dernière?
Non, j'étais pas là.
Content de te revoir.
Ouais.
Je suis aussi accompagné de Ancelin. Salut Ancelin.
Salut.
Tu vas bien?
Ouais, ça va.
Ça va, super. Ensuite, on a aussi Clément. Salut Clément.
Salut.
Tu vas bien?
Ça va.
Toute l'équipe va bien, moi aussi je vais bien. Et nous allons attaquer directement avec Mamadou qui va nous parler des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc il y a eu pas mal de surprises,
ouais.
Notamment.
Beaucoup de matchs.
Donc il va nous décortiquer tout ça. Ensuite, on ira faire un petit tour de cyclisme avec Ancelin qui va revenir sur la Coupe de France de cyclocross et retour sur les deux nuits du Vélodrome de Bretagne. Ensuite, ce sera au tour de Clément qui va nous parler un peu de rugby. Et pour finir, je présenterai les derniers Grands Prix de F1 et la saison de MotoGP qui a terminé. Donc je ferai un petit récap de cette saison. Mais tout de suite, on part avec les qualifs pour la Coupe du Monde avec Mamadou.
Ah là 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 là, ce jingle est incroyable.
C'est la musique de la Coupe du Monde 2026?
Ouais.
Ok, je connaissais même pas.
Elle est incroyable. Hein.
Elle est vraiment pas mal.
Bon, on va parler de la nouvelle formule de la Coupe du Monde, puis après on reviendra sur les matchs récents et les équipes qualifiées. Donc alors, en 2026, le football mondial va donc changer d'échelle. La Coupe du Monde 2026 se jouera donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et elle sera surtout la plus grande de l'histoire. On aura 48 équipes contre 32 en 2022. Donc on va avoir beaucoup de changements. D'abord, on pourra parler des formats des groupes. On abandonne du coup le classique à 8 groupes de 4 pour passer maintenant à 12 groupes de 4. Donc ça va faire que les deux premiers de chaque poule vont se qualifier. Mais il y aura aussi les troisièmes, les 8 meilleurs troisièmes de chaque poule. Donc on a 12 poules, donc on aura 6 troisièmes qui vont passer. Ça fait que du coup on passe de 64 matchs au Qatar à 104. Donc ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup plus de matchs, mais aussi beaucoup beaucoup plus d'argent. Puisque les droits TV vont exploser.
Business is business.
Tout simplement. D'un côté aussi, ça ouvre la porte à plus de matchs, plus de places pour les continents comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord qui gagnent plus de représentants. On peut parler aussi des critiques puisque c'est un calendrier très chargé, alors que déjà les clubs se plaignaient déjà de l'intensité, la répétition des matchs. Là, ça va être encore pire.
La
Coupe du Monde qui commence le 11 juin, je crois, et qui se finit le 19 juillet, c'est ultra long.
C'est ultra long, ça. Mais justement, j'ai une question, vous tous. Vous en pensez quoi de cette nouvelle formule de la Coupe du Monde, justement, où tu rajoutes des équipes? Donc en vrai, oui, tu peux faire place à des nouvelles équipes et tout qui peuvent découvrir la Coupe du Monde, mais en même temps, ça fait plus de matchs. Qu'est-ce que vous en pensez, enfin, vous trois?
Ça permettra d'avoir plus de matchs.
Clément, t'es...
Moins plus d'équipes jouent, donc... Je trouve que ça peut être pas mal aussi.
C'est vrai que c'est bien, ça permet de développer le foot dans certains pays où c'est pas très bien développé. T'en penses quoi, Thomas Mad?
Moi, je pense ça pareil. Vous suivez un peu, vous, la Coupe du Monde de foot?
Oui, un peu.
Ouais. C'est vrai que c'est un événement que même quand t'es pas non plus trop foot, c'est... Bah, je crois que c'est l'événement sportif qui a le plus d'audience.
Je connais, moi, je fais plein d'amis qui ne regardent pas le foot.
Ouais.
Et là, juste la Coupe du Monde, tout le monde regarde en fait.
Quand c'est la France et tout.
C'est ça, tout le monde, je m'en souviens. Hein.
Ouais.
Mais du coup, non, mais toi, tu penses
que
c'est bien?
Moi, je pense que c'est limité, justement, on va en parler, parce que ça peut causer aussi des déplacements qui sont plus grands. Là, on est sur 3 continents. Donc, question climatique. 3 pays, pardon. Donc, question climatique, c'est limite, hein, parce que c'est pas mal d'avions. Les États-Unis, c'est un pays qui est énorme, genre vraiment, c'est énorme. Donc même pour aller d'un coin à l'autre, même si c'est assez condensé, c'est...
Bah sûr que entre le Canada et le Mexique, c'est vrai que c'est 3 pays qui sont immenses. Quand t'imagines, tu joues un match, alors je pense qu'ils feront en sorte, par exemple, la France, ils vont pas toujours faire Canada, Mexique, Canada, Mexique. Je pense qu'ils feront pas leurs 5 premiers matchs, c'est pas au Canada, et après leurs 3 derniers matchs, enfin, je trouve ça, je pas au Mexique, enfin, comme ça. Je pense que ce sera, mais bon, en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements. Et puis, non, mais en vrai, ça permet à de nouvelles équipes de venir, ça c'est plutôt pas mal.
Ouais, ça va être
comme
cool,
tu vas nous en citer après, Mamadou.
Ouais.
Mais après, par contre, il y a plus de matchs, ça fait. Avant, c'était directement 8e de finale, du coup là, il y aura des 16e de finale en plus.
Donc, ça sera une Coupe du Monde qui sera encore plus difficile à gagner, puisqu'il y aura un match en plus à gagner.
Exactement.
Voilà. Donc, dernier point qu'on peut noter, la FIFA, elle veut éviter les scandales d'arbitrage. Donc, on devrait avoir en 2026 des, des expérimentations, notamment avec la communication audio des arbitres, un peu comme au rugby.
C'est vraiment
voilà. Ce serait bien.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a, je crois que c'est peut-être la Coupe du Monde des jeunes, je ne sais plus du tout, les U19, enfin je ne sais plus où, et c'était une révolution parce qu'ils ont testé le carton vert. Et en gros, c'est c'est ça. En fait, c'est que deux entraîneurs ont deux cartons verts.
Ah non, merde, oui.
Non, c'est pour la VAR. Chaque entraîneur a deux cartons verts. Et ouais. En gros, si par exemple, tu penses que là, ton équipe marque, il y a eu pénalty, que l'arbitre n'a pas sifflé, hop, carton vert. Et du coup, là, l'arbitre, il revient sur sa décision.
Ouais. Et, un peu comme au basket, ouais.
Ouais, ça, ou alors un peu comme ça au basket, ou ouais. C'est ça, où t'as des. En vrai, je pense, ou au volley aussi. Ça peut être plutôt mal, en vrai, je pense, pour le foot. On sait qu'il y a souvent des problèmes d'arbitrage. Si on peut revenir là-dessus et. Échanger, pour moi, ça va être une bonne idée à suivre. Mais...
Ça serait bien. Après, ce serait bien c'est que la VAR, quand elle regarde, elle prenne aussi la bonne décision.
Aussi, parce que y a souvent fois, tellement de problèmes entre la VAR et l'arbitre au milieu.
Ouais.
Au centre. Bon, ça, c'est un autre débat.
Donc, en termes de répartition des places, évidemment, l'Europe a le plus de places. Mais ils ont 16 places sur les 48. L'Amérique du Sud, ils en ont 6 et une en barrage. L'Océanie, elle a une place directe et une en barrage. Donc la CONACAF, donc c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale avec les Caraïbes. Eux, ils ont 6 places directes et 2 barrages.
Sauf qu'il y avait déjà du coup le Canada, les États-Unis et les Mexiques. Donc ils étaient directement qualifiés.
Donc en fait, il en reste 5. Et donc pour l'Afrique, il y a 9 places directes et 1 en barrage. Et enfin l'Asie, 8 places directes et 1 en barrage. Donc en termes de pays qualifiés, pour l'Amérique du Nord et centrale, on peut noter du coup les 3 pays hôtes, mais aussi la première participation de Curaçao.
C'est légendaire.
Un petit pays, je crois qu'ils sont même pas 1 million d'habitants.
J'ai vu ça, j'ai vu une vidéo là-dessus, c'est une île qui est vraiment située au nord du Venezuela, donc c'est minuscule,
ouais.
Et il y a 150 000 habitants, c'est à peu près le Havre.
Ouais,
si le Havre se qualifie à la Coupe du Monde, c'est totalement fou, j'ai vu ça, c'est vraiment fou.
C'est incroyable. Il y a aussi Mexique, Panama du coup. En Asie, on a l'Arabie Saoudite, le Japon, la Jordanie, le Qatar. On n'a pas d'Inde, alors qu'ils sont 1,5 milliard. Je ne sais pas comment ça se
passe. c'est tellement...
Pareil, pas de Chine non plus, pour l'instant.
La Chine, ouais.
Pour l'Afrique, on a le Sénégal, Tunisie, l'Algérie. On a le Cap-Vert qui est parti pour la première fois dans l'histoire.
Le Maroc aussi.
Peut-être. Le Maroc aussi, eux, ils ont déjà participé
avec
avant.
Le Cap-Vert, c'est aussi incroyable. Hein. C'est plein de petites îles comme ça. C'est pour ça, en vrai, cette nouvelle formule, en vrai, elle est bien aussi.
Ça fait bien.
Plein d'autres pays.
En Amérique du Sud, on a l'Argentine, évidemment, puisqu'ils ont gagné l'ancien mondial. Le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, l'Uruguay. Océanie, on a la Nouvelle-Zélande. Et puis, en Europe, on a les classiques, hein, Allemagne, Angleterre, France, Pays-Bas, Portugal... Mais il en manque un, il manque l'Italie.
L'Italie,
qui n'est toujours pas qualifiée.
L'Italie, là, qui doit quand même gagner ses matchs de barrage, il doit se dire bon, alors il y a Haïti qui s'est qualifié, Curaçao, Cap-Vert, nous aussi. Et que l'Italie, on ne va pas à la Coupe du Monde, c'est. Enfin voilà.
Ça va être chaud, quoi.
Exactement.
Surtout qu'ils ont une. Ils avaient une bonne équipe, mais là, elle est un peu moins forte, mais je trouve ça dommage, quand même.
Bah, ils ont pris une rouge contre la Norvège. Hein. D'ailleurs, la Norvège qui se qualifie avec Haaland, hein. Ça fait plaisir en vrai pour Haaland, qui était un gros joueur, et malheureusement, avec sa sélection, il n'a pas participé au Coupe du Monde, parce que la Norvège, bon, c'est pas la plus grande sélection, mais...
Ouais. Bon, en termes de matchs qui ont lieu durant les dernières semaines, on peut noter la victoire 4-0 de l'Espagne face à la Géorgie. D'ailleurs, il y a eu le scandale avec le coach du Barça, et le coach de la sélection, parce qu'en fait, il a voulu sélectionner Lamine Yamal, sauf que Lamine Yamal, une semaine avant, il dit qu'il est blessé, donc il ne peut pas venir en sélection, et le coach qui n'était vraiment pas content, qui voulait qu'il vienne et tout, ça c'était n'importe quoi.
Oh là là.
On a eu quoi d'autre? On a eu la France qui gagne 4-0 face à l'Ukraine, Mbappé qui a eu un doublé, je crois. On a eu la défaite surprise du Portugal face à l'Irlande 2-0, avec Ronaldo qui prend un carton rouge. Ronaldo
J'ai vu premier carton rouge avec le Portugal de l'histoire.
Ouais, sélection. Ouais.
Après, il a mis un coup. Je sais pas si vous avez vu. Il a mis un coup de coude dans le défenseur comme ça. Non,
il a. Ouais.
Oh, il a pété un pont.
D'ailleurs, Ronaldo qui à la Maison Blanche là.
Qui a fait polémique. Il était à rendez-vous avec Donald Trump là.
Ouais. Bon, il y en a qui disent qu'on va avoir une deuxième Coupe du Monde suspecte.
Oh. Tout de suite.
Malheureusement, c'est possible. Hein. Parce qu'en vrai, au Qatar, c'était un peu suspect avec l'Argentine.
Non.
En vrai, je suis sûr que c'est.
Non, mais en vrai, c'est vrai que ça fait polémique. Mais bon, après, ça, c'est ceux qui cherchent les petites histoires, comme toi.
Ouais. Bon, j'espère que la France va gagner. Quoi d'autre? On a eu le match nul entre l'Espagne et la Turquie. On a eu la grosse victoire de la Roumanie, 7-1.
Ouais, pareil, je me souviens, le Portugal avait gagné aussi
9-1 contre l'Arménie.
9-1 avec très but. Je sais pas si t'as vu de Joao Neves sur
coup franc. Il a gagné un triplé, je crois.
Ouais, barre rentrante, ça sort. Ouais, magnifique.
Magnifique.
Non, mais en vrai.
J'espère qu'il tire un peu plus les coups francs. Parce que moi, j'aime bien Ronaldo, mais je me dis quand même, des fois, on pourrait laisser les autres tirer.
Ouais, c'est sûr. C'est... Bah, après, comme c'est capitaine, c'est la légende.
Si ouais, c'est. Voilà.
Mais après, moi, j'ai une question à vous poser pour vous. Qui est le favori de la Coupe du Monde cette année? Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de questions. En vrai, c'est compliqué à en dire un, mais ouais. C'est vraiment qui est pour vous.
En vrai, je pense. J'espère la France, ou à la limite le Portugal, mais je pense que ça sera l'Espagne.
L'Espagne, ok, ouais,
Ou l'Argentine encore, parce que.
Je sais pas.
Tu sais pas. En vrai, il y a tellement de pays qui peuvent. Pas avec Clément, de petite idée en vrai ou...
Ah, je supporte la France. Hein.
Ouais, c'est la France. On espère tous que la France. C'est vrai qu'on a vu des stats passer comme quoi, par exemple, le Brésil, ils avaient gagné une Coupe du Monde. Ils avaient perdu après, ils en avaient regagné une après. J'espère que ça va faire pareil pour la France. Mais en vrai, moi, je serais un peu d'accord avec toi, Mamadou. Je dirais le Portugal, en vrai, ils sont vraiment bons. Portugal ou Espagne, les deux sont vraiment forts. Hein.
Les deux problèmes, moi, pour moi, du Portugal, ce serait le coach qui est, je trouve, qui est nul en fait.
Je sais pas qui c'est le coach.
Roberto Martinez. C'est un coach de la Belgique.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Il a pas de tasse, quoi. Il joue tout le temps la même équipe, il fait pas tourner, je trouve, il est pas bon. Et puis l'autre problème, c'est attention à pas trop se dire il faut qu'on fasse jouer Ronaldo. Parce que moi, je suis pour Ronaldo en vrai, mais fais attention à pas dénaturer le jeu.
Je m'en souviens, je crois, en 2022, déjà, il avait dit que c'était sa dernière Coupe du Monde, un peu comme Messi. Les deux avaient dit que c'était leur dernière Coupe du Monde. Ouais, il me semble, hein, Ronaldo, voilà.
Je suis pas sûr, moi.
Je crois que Ronaldo avait dit que c'était sa dernière Coupe du Monde. Hein. Ouais, il me semble.
J'avais pas, ok.
Et du coup, finalement, comme Messi, les deux continuent finalement. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est peut-être l'année pour Ronaldo, parce qu'en vrai, le Portugal, je le trouve vraiment bon. Pas l'Espagne. Ouais. Pour moi, c'est les deux favoris. La France, allez, on est français, hein, mais je sais pas, la France, il m'assure pas confiance d'échange. Enfin, je sais pas trop.
Moi, je continue à mapper.
Mais il fera pas tout. Ouais. Moi, je pense que ce sera. Pour moi, je le dis, je crois que maintenant, c'est soit l'Espagne, soit le Portugal qui gagne la Coupe du Monde.
Moi, après, si le Portugal gagne, ce sera la première Coupe du Monde du Portugal.
Ouais, c'est. Ouais, c'est... Je sais pas, l'Espagne. Non, c'est l'Espagne, ils l'ont gagné.
Eux, ils en ont gagné deux ou trois.
Ouais, deux ou trois, ouais, déjà. Mais le Portugal sera la première. Ouais. C'est beau pour Ronaldo en plus.
Ouais. Donc, ouais. Même s'il dit que ça l'intéresse pas. Mais
ouais, bon, parce fond... ça, oui. Mais là, il fait une interview en disant ouais, gagner une Coupe du Monde en seulement jouant 8 matchs. Bon, c'est. Enfin, il avait dit c'est nul, un truc comme ça. Bon, je pense que tu as gagné, t'es quand même content.
Ouais.
Bon, bah, super. Bon, merci Mamadou de nous avoir parlé de la Coupe du Monde. Tout de suite, on passe au cyclisme avec Ancelin.
Le week-end dernier, la commune de Kelneuc, dans le Morbihan, a accueilli l'un des grands rendez-vous de la saison de cyclocross, donc deux manches de la Coupe de France. Samedi, lors de la troisième manche, c'est Aubin Asparfel, jeune coureur de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, qui a survolé la course chez les élites hommes. Il s'impose devant Damien Béton et Matteo Jo. Chez les femmes, victoire d'Amandine Muller, suivie d'Anaïs Morichon et Camille Devigne. Dimanche, nouvelle démonstration de force, Sparfel gagne encore, cette fois devant Rémi Lelandais et Damien Béton. Côté féminin, c'est la bretonne Amandine Fouquenet qui l'emporte devant Muller et Morichon. Alors pourquoi cette course est-elle si importante? Parce qu'elle fait partie de la Coupe de France de cyclocross. Donc c'est un circuit national qui regroupe plusieurs manches dans différentes villes. Donc chaque victoire rapporte des points au classement général et à la fin de la saison, le coureur ou la coureuse avec le plus de points est sacré vainqueur de la coupe. Donc avec ses deux succès à Kelneuc, Aubin Sparfel reste invaincu et consolide son maillot de leader. Chez les femmes, la lutte est plus serrée, mais Muller et Fouquenet confirment qu'elles sont les grandes favorites. Bref, Kelneuc a offert un grand week-end spectaculaire avec un public nombreux et une ambiance digne des grandes classiques. La Coupe de France continue et à chaque manche compte dans la quête du titre final. Le prochain et le dernier rendez-vous de la Coupe de France aura lieu le 14 décembre en Normandie pour la finale de la Coupe de la Coupe.
On espère avoir un Français gagné, peut-être, je pense que c'est les grands favoris, les Français.
Bon,
oui. Sûrement, possiblement.
Après, je voulais revenir aussi donc, sur... donc, c'est un événement, les deux nuits du U du Vélodrome de Bretagne. Donc, c'est deux soirées consécutives donc, au Vélodrome de Bretagne. Donc, c'est un format court et dynamique. Donc il y a des participations de grands noms du cyclisme sur piste, comme Marie Lenette, présence de jeunes talents bretons issus des championnats de France à venir. Et donc l'originalité, c'est surtout que bah, c'est le sport, mais il y a aussi des spectacles en plus. Donc voilà. Donc avec les résultats, donc, on retiendra la victoire d'Oscar Caron devant Hervé Salon et Mathias Silvanis. Chez les femmes, la vitesse a été dominée par Marie-Louise Traud, championne de France, qui s'impose devant Flavie Michaud et Laura Hérin-Bivouac. Côté féminin, Marie Lenette a confirmé son statut de favorite en remportant le classement général devant Violette Démé et Jessica Roy. Chez les hommes, c'est Erwan Besnier qui s'impose de justesse face à Mathieu Dupé. Mais les deux nuits eues, ce n'est pas seulement du sport. Entre les courses, le public a profité donc de deux spectacles originaux avec le performateur vocal Philippe Roche vendredi et la compagnie d'art de rue Il y a un trou dans le mur samedi.
Ouais, super, mais en tout cas, quand il n'y a pas trop de cyclisme sur route, on va dire, l'hiver comme ça, c'est plus le cyclo-cross, ils ont l'habitude un peu.
Ah, ça, c'est la saison de cyclo-cross.
C'est la saison de cyclo-cross, c'est l'hiver, ouais, parce que avec la boue, j'imagine, ça rend peut-être plus difficile. Ouais. Bon, super. Bon, merci, Ancelin. Tout de suite, on passe au rugby avec Clément.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rugby, plus précisément la série des nations en automne. Donc, la série des nations en automne, c'est le nom donné aux tests internationaux de rugby qui se déroulent chaque année en novembre. Donc, pendant cette période, les grandes nations de l'hémisphère nord affrontent les équipes de l'hémisphère sud. Donc, je vais revenir sur les deux derniers matchs de la France. Donc, le 8 novembre, le 15 de France a malheureusement perdu contre l'Afrique du Sud, 17-32. Mais le 15 novembre, la France a réagi avec une victoire 34-21 contre les Fidji. Samedi, les Bleus affrontent l'Australie au Stade de France. Ces deux matchs ont montré un contraste. D'un côté, les difficultés face aux champions du monde sud-africains. De l'autre, la capacité à rebondir et à dominer une équipe fidjienne réputée pour son jeu spectaculaire.
C'est ça, je peux te dire, c'est vrai que contre l'Afrique du Sud, j'ai regardé le match, et il me semble que l'Afrique du Sud, en plus, avait un rouge. Il me semble, je crois qu'ils avaient un carton rouge, et malheureusement, on n'a pas réussi à inverser la tendance, mais en vrai, on a fait trop d'erreurs, peut-être, dans les passes et tout. Pourtant, on avait, je pense, l'occasion de gagner.
Après, j'ai pas regardé le match, donc je sais pas.
Ouais, mais je crois qu'ils avaient un rouge, l'Afrique du Sud, il me semble, mais je sais plus.
Donc voilà.
Ok, bon, super, bah, merci. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait penser un peu cette coupe au football, qu'on retrouve, c'est la Ligue des Nations un peu. Ouais. C'est pour remplacer un peu les matchs amicaux qu'on trouve des fois un peu ennuyants. Ouais. Et donc là, on essaie de rajouter un peu un petit truc en plus pour dire, allez, là, on fait une coupe, on affronte l'hémisphère nord contre l'hémisphère sud. En vrai, c'est bien trouvé, c'est sûr, mais c'est pour un peu pour remplacer les matchs amicaux, donc je trouve ça quand même bien. Moi, super, merci beaucoup, Clément. Tout de suite, on passe à la Formule 1. Bon, bah comme il n'y a pas de Ligue 1, vu que c'est la trêve internationale malheureusement. Bon, heureusement, ça reviendra ce soir, la Ligue 1, donc je vous la présenterai la semaine prochaine. Enfin, ça nous avait tous manqué. Mais en attendant, je vais vous parler un peu de F1 et de MotoGP, quand on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler ces derniers jours, ces derniers temps. Donc je reviens sur les trois derniers Grands Prix qui se sont déroulés tout d'abord en Formule 1, avec une victoire aux États-Unis de Max Verstappen devant Lando Norris et Leclerc. Donc Max Verstappen qui retrouve la victoire chez Red Bull devant l'anglais Lando Norris et Charles Leclerc, le monégasque. On peut retrouver Hamilton 4e et Oscar Piastri, le premier du classement général, 5e. Derrière, après, on peut retrouver les Français qui, malheureusement, qui n'ont pas fait une très bonne performance sur ce Grand Prix. Esteban Ocon, 15e. Isaac Hadjar, le rookie, donc qui vient d'arriver en F1 cette année, 16e. Et avant-dernier, malheureusement, Pierre Gasly. Mais on peut dire qu'il a fini dernier, puisque le dernier, c'est Carlos Sainz, qui malheureusement a abandonné avant la fin du Grand Prix. Ensuite, c'est le Grand Prix du Mexique. Donc là, on a eu une victoire de Lando Norris de chez McLaren, qui l'a remporté encore une fois devant Charles Leclerc. Donc, Charles Leclerc qui enchaîne quand même les bonnes performances avec sa Ferrari. Il a fini 3e au Grand Prix des États-Unis, la 2e, donc très bonne performance. On retrouve quand même Max Verstappen 3e. Oliver Bierman, donc le rookie de chez Haas, qui finit 4e, donc très bonne performance de la part de l'anglais. On retrouve là aussi encore une fois une contre-performance de Oscar Piastri, le premier du général, qui vous allez voir n'est plus premier, il me semble. On retrouve aussi Antonelli, Russell, Hamilton, Esteban Ocon, le français, qui finit dans les points. Parce qu'en F1, pour finir dans les points, il faut finir dans les 10 premiers. Et il a fini 9e, donc il récolte 2 points pour le classement général. On retrouve de 13e, malheureusement, Isaac Hadjar et 15e, Pierre Gasly. A constaté quand même qu'il y a eu 4 abandons dans ce Grand Prix, notamment encore une fois un abandon de Carlos Sainz qui abandonne 2 Grands Prix d'affilée. Donc le pilote de chez Williams, malheureusement, qui a été victime de quelques problèmes. Enfin, c'était le dernier Grand Prix, c'était le week-end dernier, le Grand Prix du Brésil. Donc là, c'est Lando Norris qui s'est encore une fois imposé. Donc c'était vraiment Oscar Piastri, son coéquipier, qui faisait que s'imposer chez McLaren. Sauf que là, c'est le dernier Grand Prix. Ça ne va pas bien pour Oscar Piastri, puisque encore une fois, là aussi, il finit encore cinquième. Avec son coéquipier premier, lui, engrange 25 points, alors que lui, il en engrange que 10. On peut retrouver Antonelli, très bonne performance de la part du pilote Mercedes qui finit deuxième. Verstappen, encore une fois, troisième. On peut noter la belle performance du français Isaac Hadjar qui finit huitième, donc qui récolte 4 points pour son écurie et pour lui au classement des pilotes. Dixième, Pierre Gasly qui finit dernier des points avec 1 point. Et ensuite, on retrouve 12e, le français Esteban Ocon. À noter qu'il y a eu 3 abandons dans ce Grand Prix, dont les 2 Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Donc, mauvaise performance malheureusement pour les Ferrari. Donc ce week-end qui arrive là, c'est le Grand Prix de Las Vegas, donc c'est ce week-end. Donc la course aura lieu le dimanche 23 novembre à 5h du matin. Bon alors, il faudra peut-être se réveiller pour les fans de F1, mais voilà, un Grand Prix assez quand même, assez, comment dire, glagla un peu, enfin, qui est vraiment sur le feu des projecteurs avec, évidemment, à Las Vegas. Donc je vais revenir du coup maintenant sur le classement pilote avec, donc comme je l'ai dit, c'était Piastri avant qui était largement premier, mais avec ses contre-performances. Ils sont coéquipiers pour l'instant à 3 Grands Prix de la fin qui est premier. Donc premier Lando Norris avec 390 points et 7 victoires. Deuxième Piastri, 366 points. Troisième Verstappen avec 341 points. Attention le titre, je pense, hein, de Verstappen pour cette année, c'est que ça va être compliqué, il reste 3 Grands Prix. Donc celui qui était sur 3 victoires consécutives, 3 fois champion du monde d'affilié, ça va être dur d'être une 4e fois champion du monde. Donc on avait aussi 4e George Russell, 5e Leclerc, 6e Hamilton, 7e Antonelli. On peut retrouver Hadjar 9e des classements des pilotes avec 43 points. On retrouve Esteban Ocon 16e avec 30 points et 18e Pierre Gasly avec 22 points. À rappeler que la saison prochaine, c'est un changement de réglementation. Donc il y aura des nouvelles voitures, de nouvelles écuries qui arrivent en F1, donc Cadillac et Audi. Donc ça va révolutionner un peu la F1. Donc ça va changer d'un peu d'air. Mais en attendant, il restera quand même 3 Grands Prix. Avec donc ce week-end, le Grand Prix de Las Vegas, le Grand Prix du Qatar et pour finir, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc un petit mot aussi de MotoGP, puisque là, la saison de moto, elle est terminée. Donc je vais revenir sur le dernier Grand Prix de moto qui s'est déroulé. Donc c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui l'a emporté devant Raúl Fernández et DJ Antonio. Malheureusement, les Français ont fini assez loin. 12e, Juan Zarco et 19e, Quartararo. Quartararo qui avait été champion du monde en 2021, il me semble, de moto. Ou 2022, je ne sais plus, mais je crois que c'est 2021. Et malheureusement, qui enchaîne malheureusement les années où bof, ou depuis qu'il est champion du monde, le français. Là aussi, il n'a pas encore fini la course, la dernière course de la saison, malheureusement. Et donc, pour le petit classement pilote, donc c'est premier, c'est Marc Marquez avec 545 points. Donc, c'est fini, la saison de moto est terminée. Marc Marquez emporte le championnat du monde. Il est sacré champion du monde de MotoGP. Donc, pour la 8e fois, il me semble qu'il l'a emporté. C'est vraiment une légende de ce sport. Marc Marquez, devant son frère Alex Marquez, quand même les deux frères Marquez, les deux premiers au classement général avec 467 points. Ensuite on retrouve Marco Bezzecchi l'italien, 4e l'espagnol Acosta, etc. Et on peut noter, je vais vous dire les nationalités. Marc Marquez donc il finit premier, c'est un espagnol. Deuxième Alex Marquez son frère, donc c'est un espagnol. Troisième c'est un italien. Quatrième un espagnol. Cinquième italien. Sixième italien. Septième italien. Huitième espagnol. On retrouve Fabio Quartararo français 9e. Et après on retrouve un espagnol. Et après on retrouve des français, des italiens. Enfin bref, les espagnols et les italiens dominent clairement cette catégorie. Et au classement par équipe, on peut voir donc que Ducati a fini largement premier avec 835 points. Et j'avais oublié aussi, mais un petit mot de F1 aussi, avec le classement des constructeurs. Mais McLaren est bien devant et largement devant. Il va finir premier largement depuis longtemps maintenant avec 756 points. Et Mercedes, deuxième juste derrière avec 398 points. Red Bull, là aussi derrière. Ferrari, Williams. On retrouve Racing Bulls, l'écurie du français Isaac Hadjar, sixième. Haas, F1 Team qui est 8e, donc l'écurie de Ocon. Et pour finir, malheureusement, Alpine, l'équipe française qui est dernière, malheureusement, du classement constructeur. Notamment où il y a notre français Pierre Gasly. Rien à ajouter, c'est bon. Bon, bah super. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Delta Sport. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!
C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM.
J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais!
C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.